Pour cette 11e interview de Civis Podcast, on reprend les entretiens classiques après le format des cartes blanches que nous avions organisées en raison du confinement. On reçoit le politologue Thomas Guénolé, qu'on a rencontré dans un bar à Montreuil début octobre. Thomas Guénolé, c'est ce qu'on peut qualifier d'un intellectuel de gauche. Il a été éditorialiste sur RMC Europe 1, enseignant à Sciences Po et conseiller politique de Jean-Louis Borloo et d'Arnaud Montebourg. Il a rejoint la France Insoumise en 2017, dont il est devenu co-responsable de l'école de formation, avant de quitter le parti en 2019. C'est également un auteur à succès, il a écrit « La chute de la maison Mélenchon » en 2019, édité chez Albin Michel, et son dernier livre dont nous avons longuement parlé au cours de l'interview, « Le livre noir de la mondialisation », édité chez Plon. Cette interview va être séparée en deux parties. Ce premier podcast d'abord sera consacré à son dernier livre et à son constat sur le bilan humain de la mondialisation, et dans un second podcast, nous aborderons avec lui son analyse de la situation politique actuelle et son expérience de militant politique. Un grand merci à Thomas Guénolé pour avoir répondu à nos questions, et j'espère que cette interview vous plaira. Thomas Guénolé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur du livre « Noir de la mondialisation » paru le 24 septembre chez Plon dans la collection Tribune Libre. Vous faites une dénonciation très dure du bilan humain de la mondialisation, une analyse très factuelle avec une méthodologie très précise que vous précisez, qui est très détaillée dans le livre, donc c'est très intéressant. Donc, c'est à
ce qui vous avez lu la note méthodo, sérieux ?
J'ai lu la note méthodo, j'ai fiché la note méthodo.
Bravo.
C'est passionnant parce que ça permet à la fois d'ouvrir... un constat très, très dur et très précis à un grand public, et en même temps de permettre à des étudiants comme moi en sciences politiques d'analyser concrètement un constat. Alors, ma première question, c'est par rapport au titre. Le livre noir de la mondialisation s'est inspiré librement, si j'ai bien compris, du livre noir du communisme. C'est un livre qui a été très controversé. Et du coup, je voulais savoir pourquoi vous reprenez ce titre. Pourquoi vous vous êtes inspiré de ce titre.
J'ai eu le sentiment que beaucoup de gens qui réfléchissent sur ces questions attendaient ça, un livre noir de la mondialisation, et que ça s'appelle comme ça. Parce que cette expression renvoie, qu'on le veuille ou non, à une certaine démarche qui est de faire une enquête, une démarche la plus scientifique possible, pour évaluer le coût humain total d'un système. Mais ça n'avait pas été fait pour la mondialisation. Ça a été fait pour le communisme, ça n'a pas été fait pour la mondialisation. Et donc il y avait pour tout un public l'idée quelque part d'un deux poids deux mesures, c'est-à-dire que ce système fait des morts, mais ces morts-là apparemment ça ne compte pas. Ça y est, maintenant ça compte, puisque pour la première fois, et c'est la première fois que cette démarche est faite, pour la première fois nous avons un bilan total qui est, me semble-t-il, terrifiant, puisque 400 millions de morts c'est quand même énorme. Ça représente quelque chose, en ordre de grandeur, c'est approximativement 15 millions de morts par an.
Parce que oui, vous le faites depuis 1992.
Oui, parce que la mondialisation actuelle, par convention, on l'a fait démarrer à partir de la chute de l'Union soviétique. Ce n'est pas la première mondialisation, hein, c'est la troisième, j'explique ça dans le livre, il y a un chapitre de brève histoire des deux précédentes mondialisations, on y reviendra si vous le souhaitez, simplement... La mondialisation actuelle, oui, on l'a fait dater par convention de la toute fin 1991, et donc ça va de 1992 inclus à 2017 inclus. Je me suis arrêté à 2017 parce que j'ai estimé en conscience que les chiffres postérieurs à 2017, les statistiques, les données ne sont pas assez stabilisées pour que je puisse m'en servir dans ma comptabilisation.
Il y a une question qui est centrale et qui permet de cerner tout le bouquin ensuite, c'est d'abord votre définition de la mondialisation. La mondialisation, c'est parfois vanté et parfois décrié pour ses aspects plus culturels. À la fois, Zemmour va faire une grande dénonciation de la mondialisation culturelle avec ses mouvements humains, etc. Et du coup, moi, je voulais savoir concrètement ce que c'était votre définition de la mondialisation, parce que la définition que vous faites, c'est plutôt sur le bilan humain, sur les aspects économiques et sociaux.
Économique, je dirais, sur les aspects économiques, géopolitiques et humanitaires. Et écologiques, mais écologiques au sens des conséquences humanitaires, de la pollution atmosphérique notamment. Donc, vous me demandez la définition de la mondialisation, c'est ça ?
Parce qu'il y a cinq aspects que vous...
Oui, tout à fait.
Donc, je vous laisse les définir.
Alors, d'abord, il faut dissiper un malentendu. Le premier, c'est enfin un ensemble de malentendus. Le premier malentendu qui me vient à l'esprit, c'est que la mondialisation, ce serait un synonyme de grand, ce serait simplement le fait que les êtres humains sont de plus en plus interconnectés de toutes les façons qu'on peut imaginer, et que la mondialisation, ce serait ça. Non, parce que ça, c'est une définition qui est tellement vaste qu'elle devient inopérante. Parce que dans ce cas-là, la première mondialisation, c'est l'Homo sapiens sapiens qui se promène un peu partout sur la planète et qui essaime. Et donc, en fait, la mondialisation serait synonyme de, comment dire, activité de l'humanité depuis qu'elle est humanité. Donc, ça ne marche pas. Vous voyez bien que ça ne marche pas. La mondialisation, c'est un système bien précis parce qu'il n'existe de mondialisation que, comment dire, sous la domination d'une superpuissance qui en fixe les règles. C'est pas une mondialisation n'arrive pas à tomber du ciel. Il y a une superpuissance qui décide que ça va se passer de telle façon et pas de telle autre. Et d'autre part, la mondialisation, c'est un système, fondamentalement, c'est un système planétaire. Planétaire, comment vous dire ça ? Pour être précis, c'est un système planétaire de répartition des ressources, mais pas du tout de répartition harmonieuse. On peut même parler de système de pillage en réalité. Et donc, si on essaye d'avoir 5 critères précis, c'est ce que j'ai fait, qui marchent pour les 3 mondialisations. Primo, la mondialisation, c'est un réseau commercial planétaire. Si c'est pas planétaire, c'est pas une mondialisation. Si c'est à l'échelle de l'Europe, on pourra parler d'européanisation, si vous voulez. Mais il faut que ce soit planétaire. C'est un système commercial planétaire, intégré. Et deuxième critère, une superpuissance en fixe les règles. C'est au service des intérêts d'une superpuissance. Par exemple, la première mondialisation, c'est la mondialisation hispano-portugaise, mais essentiellement espagnole, c'est-à-dire que vous avez le premier réseau commercial intégré, qui est inondé d'or et d'argent, qui est pillé sur le continent américain, et c'est les règles qui sont fixées de cette mondialisation, ce sont des règles espagnoles. Bon. Donc on peut parler de première mondialisation ou de mondialisation espagnole. Le troisième critère, c'est que la pensée économique dominante de l'époque, c'est très frappant à voir, coïncide avec les intérêts de la superpuissance qui dirige la mondialisation. Par exemple, si vous prenez la deuxième mondialisation, c'est la mondialisation anglaise, 18e, 19e siècle, je simplifie dans notre discussion, mais essentiellement quand même ça se déploie encore plus fort au 19e siècle, eh bien, les théories économiques qui se développent à l'époque de manière massive, ce sont les théories du libre-échange, étant toujours dans l'intérêt de tous les partenaires, quand bien même en réalité, même en prenant les exemples de grands théoriciens de l'époque, en fait, quand on regarde la réalité historique, on voit que c'est du pillage. Et donc, par exemple, tous les étudiants qui ont étudié l'économie politique ont entendu parler des vertus du libre-échange selon Ricardo. Et il prend l'exemple de l'Angleterre et du Portugal. Sauf qu'à l'époque, du point de vue géopolitique, le Portugal est un vassal de l'Angleterre. Et donc, on est dans un échange complètement déséquilibré par définition. Mais donc, le libre-échange, en fait, quand vous avez une puissance qui est une superpuissance qui écrase tous les autres, il est évident, j'ai même pas besoin de détailler, il est évident que le libre-échange est dans l'intérêt du plus fort, toujours. Et donc, les deux derniers critères, c'est que c'est un système dans lequel vous avez donc prédation des richesses du plus faible, la colonisation par exemple, et asservissement des populations du plus faible. Alors aujourd'hui, ce serait l'industrie textile du Bangladesh par exemple, où il y a du néo-esclavage, indiscutablement. Et le dernier critère, le cinquième, c'est que c'est un système qui, encore et encore, fait des millions de morts. Je vous citais tout à l'heure la mondialisation espagnole et portugaise, si on est rigoureux. Eh bien, par exemple, l'exploitation des mines d'argent de Potosi, en Bolivie, ça a fait au moins 8 millions de morts, essentiellement des Incas, mais aussi des déportés d'Afrique. Voilà, par exemple. Mais on pourrait aussi citer les déportés de la traite négrière, parce qu'il y a des morts pendant l'esclavage dans la deuxième mondialisation, la mondialisation dominée par l'Angleterre, mais il y a aussi des morts pendant la traversée. Hein. Et puis vous avez la troisième mondialisation. La troisième mondialisation, c'est la mondialisation américaine. En résumé, elle est dominée bien sûr par les États-Unis d'Amérique, et elle commence en 1992, et finalement, c'est une extension du système de domination qui était avant le bloc de l'Ouest, pendant la guerre froide, mais cette fois-ci, c'est toute la planète. Et donc c'est une comment dire et c'est un système qui remplit les différents critères que j'ai listés. Donc c'est un système, c'est un réseau planétaire commercial intégré, le plus vaste qu'on ait eu, et c'est un système dominé par les États-Unis, très loin devant toutes les autres puissances que vous pouvez imaginer. Les théories économiques dominantes sont dans l'intérêt de cette superpuissance. En l'occurrence, ce sont des théories renouvelées 20e siècle du libre-échange. Mais encore une fois, je détaille ça dans le livre, comment elle fonctionne, et donc comme quoi concrètement ça donne l'échange inégal, ce que Samir Amin qui est mort il y a quelques années, mais qui est un grand économiste du développement tiers-mondiste, ce qui est un compliment. Samir Amin, donc, c'est le bouquin L'échange inégal. Et donc, 400 millions de morts, ce qui est impressionnant et terrifiant, et c'est un système de prédation, je détaille ça dans certains chapitres.
On va revenir sur le bilan, qui est vraiment le centre de votre livre, le bilan humain, mais est-ce qu'on n'est pas dans une quatrième phase? Vous avez développé les trois phases, est-ce que maintenant, avec l'influence de la Chine notamment, parce que sur en termes de poids économique, c'est vraiment Chine contre les États-Unis, et vous avez parlé vraiment de l'influence de cette superpuissance, la Chine en Afrique, elle a plus d'influence. On parle de Chine-Afrique qui remplace la France-Afrique. Est-ce que la Chine n'est pas en train de faire rentrer votre analyse dans une quatrième phase?
Votre question, c'est est-ce qu'on va vers une mondialisation chinoise après la mondialisation américaine, c'est-à-dire dominée par la Chine? Moi, je pense qu'on va plutôt vers une deuxième guerre froide. Et qu'est-ce qu'on a après la deuxième guerre froide? États-Unis-Chine. Là, ça dépasse mes capacités de projection. Si je devais parier sur une nouvelle superpuissance mondiale après la Chine, donc on est au-delà de mon espérance de vie, je pense, hein. Je parierais sur une puissance africaine. D'accord. Parce que le mécanisme historique, c'est que vous avez la superpuissance impériale, et puis de plus en plus, elle assied son pouvoir sur la domination militaire pure et dure, et sous-traite les activités les plus pénibles pour sa propre population, sauf que ça fait monter des puissances industrielles qui sont quelque part leurs domestiques, mais à un moment donné, vous avez un point de bascule entre cette superpuissance qui est surarmée et surendettée et une puissance industrielle qui s'occupe de lui fournir des résultats industriels, enfin de la production industrielle, et qui, elle, accumule les excédents. Vous voyez ? C'est ce qui est arrivé. C'est comme ça que l'Espagne a cessé d'être la superpuissance. Hein, ouais. Elle a fini endettée et surarmée. C'est la surexpansion de l'époque de Charles Quint. Et donc, je résume, hein, encore une fois, et je simplifie. Mais, et donc, ceci pour dire, il y a quelque chose de cet ordre-là entre les États-Unis et la Chine, mais ce n'est pas une certitude. Il n'y a pas de... Comment dire je suis en désaccord avec les gens qui sont totalement déterministes, comment dire, pas déterministes, mais comment dire, qui pensent qu'on peut faire des prophéties exactes. En matière de géopolitique, je pense que c'est pas vrai. Je pense qu'il y a je pense qu'il y a des sentiers possibles et que ce que nous appelons libre arbitre à l'échelle individuelle ou à l'échelle des puissances ou des collectifs ou des boîtes entreprises ou de tout ce que vous voulez, ce qu'on appelle libre arbitre, en fait, c'est la part qui nous revient une fois que les déterminismes se sont servis. Vous voyez ? Et il y en a quand même une. Il y en a quand même une. Et donc, par exemple, et l'autre raison pour laquelle je me méfie du caractère forcément prophétique, certain, d'une domination chinoise, même si je l'ai envisagé dans un autre bouquin qui s'appelle « La mondialisation malheureuse », c'est qu'on nous a prophétisé le déclin des États-Unis au bénéfice du Japon dans les années 80, et finalement, ce sont les États-Unis qui ont fait une prise de judo au Japon. Donc, et le Japon s'est retrouvé dans une période de stagnation dont il n'est toujours pas sorti. Donc, vous voyez une trace de cette impression de domination, d'inéluctabilité du triomphe japonais dans un certain nombre de films américains des années 80 et 90. Regardez Blade Runner, par exemple, et vous voyez que dans Blade Runner, clairement, on vous annonce une omniprésence japonaise, vous la voyez dans ce film-là. Le premier, hein, Blade Runner, je le dis, parce que pour moi, c'est évident quand je dis Blade Runner sans préciser que c'est le premier, mais pour vous, vous en avez, vous en avez deux, vous.
Alors, concrètement sur le bilan humain, vous détaillez sur le titre coronavirus, guerre de pillage, etc.
Est-ce que
vous
même si stricto sensu, le coronavirus est dans l'intro, mais comme je m'arrête en 2017 pour être certain de mes chiffres, le coronavirus n'est pas dans le bilan de livre noir de la mondialisation.
Bah,
tout le reste y est par contre. Hein. Guerre de pillage, ça y est, famine, ça y est, maladie, ça y est, néo-esclavage, ça y est, pollution, ça y est,
etc. Justement, préciser concrètement votre.
Bah, c'est assez simple en fait. Vous avez dans les différentes catégories, vous avez 600 000 morts dans la guerre américaine en Irak, que j'ai comptabilisé tout simplement parce que je rappelle les preuves, pas les spéculations, les preuves que la guerre d'Irak c'était pour faire main basse sur leur économie, même si on pourrait souligner ça. C'est une découverte que j'ai faite en enquêtant rigoureusement. Le gouvernement américain de l'époque voulait péter l'Irak dans l'intérêt des firmes pétrolières américaines, mais l'occupation du pays s'est retrouvée tellement instable et dangereuse que les firmes pétrolières américaines, le moment venu, toutes sauf une, ExxonMobil, ont refusé d'y aller. Et donc finalement, j'explique ça dans le livre, et donc finalement, ce sont d'autres firmes, des firmes non américaines, qui y sont allées. C'est cocasse presque, même si c'est tragique. Et donc, le pillage de l'économie irakienne par des multinationales américaines, ça s'est en réalité fait par un autre mécanisme qui est les contrats de reconstruction du pays et la mise en coupe réglée de l'économie civile par un certain nombre de boîtes, notamment un consortium bancaire de mémoire qui était sous la férule de, je crois que c'est JP Morgan, c'est dans le bouquin de toute façon. Et donc, cette mise en coupe réglée, de manière très standardisée, j'allais dire, nous permet aussi de nous rappeler que cette démarche de prédation, c'est 600 000 morts civils irakiens. Ce chiffre, la plupart des gens dans les pays riches ne sont même pas au courant qu'il y a eu 600 000 morts civils. Voilà, il n'existe pas. C'est, comment dire, dans la démarche de ce bouquin, il y a aussi, de ma part, le fait de, en fait, respecter la mémoire des morts, c'est aussi reconnaître c'est d'abord reconnaître leur existence. 6,5 millions de morts dans les guerres de pillage des ressources, alors c'est en particulier en Afrique subsaharienne, pas seulement mais essentiellement, et donc il s'agit de guerres pour piller des ressources, en particulier des minerais, afin d'assouvir les besoins d'un certain nombre d'industries, en particulier l'industrie du smartphone. Donc le cas d'école de ça, c'est la deuxième guerre du Congo, c'est 5,4 millions de morts, et là aussi, la plupart des gens dans les pays riches n'en ont même pas entendu parler. Enfin, savent qu'il y a eu des trucs, des guerres, mais c'est une espèce de brouillard diffus. Oui, oui, il y a des guerres en Afrique. C'est ça. Et on n'est même pas au courant, un peu plus maintenant, mais en général, on n'est pas au courant que c'était des guerres pour le tantal, des guerres pour le coltan, etc. etc. Alors, 11 millions de morts de faim. 11 millions de morts de faim, alors là, c'est très simple, c'est que j'ai refait les calculs. Il y a moins de morts de faim que ce qu'on nous raconte, mais il y en a quand même 11 millions depuis 1992. Donc la communication d'un certain nombre d'organisations internationales et d'ONG en fait est fausse, quand on refait les calculs, mais c'est quand même 11 millions de morts de faim, ce qui est colossal, et d'autant plus inacceptable que nous produisons assez de nourriture sur Terre pour nourrir convenablement, j'ai bien dit convenablement, l'intégralité de l'humanité, plus encore 1 milliard de personnes si elles existaient.
Alors, c'est
attendez, juste. On a quand même donc 11 millions de morts. Et ça, si vous voulez, par définition, ça veut dire que le bilan du marché alimentaire mondialisé, de la mondialisation dans sa déclinaison alimentaire, est indéfendable. Et on a encore donc deux catégories, 56 millions de morts de leurs conditions de travail. C'est le mécanisme simplement du dumping social, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes un pays pauvre et que vous décidez d'adopter les standards de sécurité et d'hygiène au travail des pays riches, bah les multinationales qui ont des usines chez vous, elles vont délocaliser tout de suite pour aller là où ça leur coûte moins cher, c'est-à-dire où on peut traiter les gens comme des esclaves. Je ne dis pas que toutes les multinationales vont le faire, mais certains secteurs bien précis, oui, et en fait ce sont des secteurs nombreux et avec un poids économique considérable. Ça représente 56 millions de morts. On peut citer par exemple, et c'est un exemple que je développe parmi d'autres, le cas de la multinationale Foxconn, dont les usines en Chine ont été qualifiées par des travaux universitaires de camps de travail. Et je décris de manière documentée la réalité atroce, le mot n'est pas trop fort, des conditions de travail. 69 millions enfin de... Non, pas enfin, qu'est-ce que je raconte? Il y avait trois catégories, pas deux. 69 millions de morts de la catastrophe écologique, ça ce sont des morts de pollution atmosphérique. Pareil, même chose que le dumping social, c'est-à-dire que vous avez des pays... En fait, la mondialisation a provoqué la délocalisation des activités les plus polluantes, les plus dégueulasses, depuis les pays riches vers des pays pauvres ou en développement, dans lesquels c'est pas, comment dire, ce n'est pas un problème pour les autorités locales qu'on pollue comme des porcs. Et ça a des conséquences, qui notamment une surmortalité par pollution atmosphérique qui est colossale. Je pense à l'Inde, ce qui est le cas détaillé dans le livre, mais aussi à la Chine. Et puis il y a d'autres pays où c'est le cas, mais il y a même des morts de pollution atmosphérique tous les ans en France, hein, mais beaucoup moins, beaucoup moins. C'est-à-dire que l'air de New Delhi est pollué aujourd'hui comme l'air du Londres industriel pollué dégueulasse du 19e siècle. Cependant que l'air de Londres d'aujourd'hui, il est quasi clean, quoi. Enfin, 256 millions de morts de maladies pourtant soignables. J'entends par là que quand une maladie est facile à soigner, ce qui est le cas de la tuberculose, ou de la diarrhée, encore plus. La diarrhée, c'est...
Ça,
la diarrhée...
c'est vraiment une découverte que j'ai faite dans votre livre, que la diarrhée est tuée à ce point.
Voilà, c'est terrifiant, hein.
C'est terrifiant.
Moi aussi, ça m'a fait tomber de ma chaise. Il y a plusieurs fois dans le livre, les chiffres sur lesquels je suis tombé, je suis passé par une phase où je devais d'abord les accepter. Et ensuite, je pouvais continuer à travailler. La diarrhée, c'est, dans un pays riche, c'est un moment embarrassant et un cachet. Et on n'en parle plus. À l'échelle du monde, c'est des centaines de milliers de morts tous les ans. Et donc, par définition, alors la tuberculose, c'est quelques cachets, et pourtant, pareil. La pneumonie, c'est encore pire. De mémoire, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais de mémoire, c'est un million. Hein.
Tous les chiffres sont dans le livre, ouais.
Mais de toute façon, tous les chiffres sont dans le livre. Je ne les connais plus tous par cœur, hein, il y en a beaucoup. La pneumonie, ça se traite. Et pourtant, la pneumonie a fait des millions de morts sur la période étudiée. Pareil pour la tuberculose. Le sida est un cas plus délicat, c'est-à-dire que le sida, c'est pas qu'on arrive à le guérir, c'est qu'on arrive à le soigner. C'est-à-dire que maintenant, avec les traitements qui existent, vous pouvez atteindre une espérance de vie qui est quasiment la même que celle des gens qui n'ont pas le sida. Et c'est le cas aujourd'hui dans les pays riches, grâce aux trithérapies, etc. C'est le cas depuis... On ne peut pas guérir, mais on peut soigner depuis le milieu des années 90. Et donc, il y a aussi le cas... Enfin bon, j'ai un certain nombre de maladies qui sont traitées qui sont exposées dans le livre, et c'est toujours le même problème. Les traitements existent, les médicaments existent, et les gens meurent quand même par millions tous les ans. Et donc, ils ne meurent pas stricto sensu des maladies. Ils meurent du déni d'accès au traitement et du déni d'accès aux médicaments. C'est ça le problème. Et donc, ça veut dire que la mondialisation en tant que système de répartition de nos ressources, est tellement gravement dysfonctionnelle qu'elle produit des morts de maladies qui, en fait, ne devraient pas en mourir. C'est ça qui se passe, en réalité, si on regarde les choses dans toute leur brutalité. Ça, c'est 256 millions de morts sur la période étudiée. C'est gigantesque. C'est terrifiant. Et dedans, il y a aussi, par exemple, quelque chose qui est atroce, c'est le nombre de morts de nouveau-nés. Les morts de nouveau-nés qui étaient évitables. C'est-à-dire si on avait eu l'offre de soins nécessaire, et donc pas le sous-développement sanitaire. Encore une fois, alors qu'on a les moyens, on a les ressources. Hein, j'insiste là-dessus. C'est pas la fatalité, on a les ressources. Et donc, vous avez des millions de morts nouveau-nés, 57 millions de mémoire, 56 ou 57 millions. Et sur la période étudiée, et donc, les avocats de la mondialisation, les partisans de la mondialisation heureuse, je leur souhaite bien du courage pour expliquer aux parents de ces millions d'enfants morts-nés que la mondialisation est un système formidable.
Bien du courage pour expliquer tous les points que vous avez dans le livre, d'ailleurs.
Bah oui, il me semble. Mais vous remarquerez, j'insiste là-dessus, que ce livre n'est pas, ce livre n'est pas dans une démarche d'indignation. C'est un exposé, scientifique, écrit sur un ton pédagogique pour être le plus clair possible, très rigoureusement sourcé et documenté, et écrit globalement sans affect. Je fais confiance à l'intelligence des gens qui lisent le livre pour en tirer les conclusions qui s'imposent. C'est important de mon point de vue, il ne faut pas mélanger les rôles. C'est important de... J'ai fait un travail d'enquête, de documentation et de révélation. Le travail d'interpellation, d'engagement, etc., c'est au lecteur de faire sa part du boulot, j'allais dire.
Oui, le lecteur aux ONG. Tout à fait. Par rapport aux maladies, aux guerres de pillage, c'est généralement très centré sur l'Afrique. Parce que voilà, c'est.
Pour les guerres de pillage, vous avez raison. Pour les maladies, non. Les maladies, la situation est plus grave en Asie, en réalité.
D'accord.
Mm-hmm. Par exemple, la situation de la pneumonie est plus grave en Asie.
D'accord. Mauvaise interprétation de ma part. Mais alors, vous.
Non, mais soyez indulgent avec vous-même, hein. Il y a quand même beaucoup de thèmes.
C'est vrai, effectivement. La responsabilité, concrètement, pour. Je voulais prendre le cas de l'Afrique, mais pour les cas de l'Afrique et pour l'Asie. On pense assez facilement à la corruption des pays africains, aux élites corrompues qui, justement, ne veulent, enfin, ne font pas les efforts politiques pour faire avoir accès à la population, à tout ce traitement, etc. Concrètement, sur qui porte la responsabilité?
Très bonne question. Il y a plusieurs catégories de responsabilités. Il y a la responsabilité des idéologues qui ont poussé dans la direction de la mise en place de la mondialisation malheureuse, en expliquant sans relâche que péter les barrières douanières, mettre en place des nouveaux traités inégaux, des accords de commerce inéquitables, que compter sur la liberté du renard libre dans le poulailler libre, etc., etc., ça allait être globalement positif, quoi. Il y a une responsabilité des idéologues, hein. On peut avoir du sang sur les mains, on peut aussi en avoir sur son stylo, hein. Donc, il y a cette responsabilité-là. Je n'hiérarchise pas, hein. Je
Non, bien
vous
sûr.
donne les différentes catégories. Après, vous avez une responsabilité qui est celle des dirigeants politiques qui, une fois en responsabilité, sont allés dans cette direction. Et peu importe leur motivation. Ce n'est pas une excuse d'avoir cru bien faire. Et comment dire, ces dirigeants, en fait, je suis convaincu que pour beaucoup d'entre eux, ils ne sont même pas au courant, ou en tout cas ce n'est pas présent à l'esprit, que le système qu'ils entretiennent comment dire, et qu'ils poussent toujours plus loin, puisque de G20 en G20, je raconte dans le livre, de G20 en G20, vous avez des espèces de communiqués conclusifs qui sont des manifestes de catéchisme en faveur. Enfin, comment dire, c'est presque involontairement comique, tellement c'est décalé par rapport à la réalité. Vous avez 400 millions de morts et vous avez des communiqués qui tracent des louanges à la gloire de la mondialisation et qui disent, et le démon absolu, c'est le protectionnisme. Vous voyez, c'est vraiment systématique. C'est très intéressant. Ce côté presque, oui, c'est ça, de l'ordre du catéchisme. Et ces dirigeants-là ont une responsabilité. Ce que je disais à l'instant, c'est que je suis absolument convaincu que pour un certain nombre d'entre eux, voire pour la quasi-totalité d'entre eux, c'est une conviction que j'ai, hein, simplement, je ne peux pas vous la prouver, c'est que ils ne sont probablement même pas. C'est même, ça n'est, les millions de morts ne sont probablement même pas présents à leur esprit. Ce qui, à mon avis, n'excuse rien, c'est-à-dire que ils ne s'en sont pas souciés.
Mais justement, parce qu'ils vont vous dire, c'est d'ailleurs ce que vous avez dit Jacques Attali dans votre entretien à Marianne, entretien croisé, c'est que bah, la mondialisation a fait sortir de la pauvreté un nombre très conséquent de populations.
Oui, c'est l'histoire, vous voyez, c'est l'histoire d'un pays, la Chine, qu'on cite toujours comme exemple du résultat de preuve de la mondialisation heureuse, et qui, grâce à quasiment 30 ans de mondialisation, a maintenant une classe moyenne qu'il n'avait pas avant. C'est vrai, et j'ajoute, ça n'est pas contestable. Et ce même pays, par contre, c'est ça qu'ils oublient de préciser, dans ce même pays, vous avez tous les ans des millions de morts, de faim, de maladies, de néo-esclavage. Et donc, pour le résumer, vous avez 70% des Chinois qui sont maintenus dans l'extrême pauvreté, et vous avez les 30% qui restent, qui en sont sortis. Et donc, les tenants de la mondialisation heureuse vont vous dire, regardez, il y a des gens qui sont sortis de la pauvreté. Et ils ont du mal à accepter cette réalité toute simple. L'amélioration du sort des uns repose sur le néo-esclavage et les millions de morts des autres. Et donc, comment dire, c'est une amélioration qui coûte trop cher, en coût humain total. Et d'ailleurs, c'est quelque part, c'est le même problème que le communisme, à mon avis. C'est-à-dire, le communisme, pardon de le dire, mais le bloc soviétique, a eu un certain nombre de résultats en termes de développement économique et humain, a eu un certain nombre de résultats spectaculaires. C'est particulièrement vrai de l'alphabétisation de territoires, de populations entières qui étaient, comment dire, qui étaient très 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 loin en arrière avant qu'il y ait l'Union soviétique. Oui, sauf que dans le bilan total, il y a les goulags, il y a l'état policier, il y a etc., etc. Et donc, au global, quand bien même il y a incontestablement l'alphabétisation, vous ne pouvez pas tenir l'argument du bilan globalement positif, qui était l'expression des staliniens de l'époque. Ouais. C'est pas possible. Bah, pour la mondialisation malheureuse, c'est pareil. C'est-à-dire que moi, je ne conteste pas les aspects positifs. Je dis simplement que quand il y a 400 millions de morts par ailleurs, quels que soient les aspects positifs, c'est juste indéfendable. Alors, une variante de cet argument, c'est de dire « oui, mais ça va mieux ». Pareil, c'est quelque chose qui est... C'est un argument qui est indéfendable. C'est une position qui est indéfendable, puisque c'est un système qui, en soi, intrinsèquement, c'est pas accidentel, c'est un système qui, en soi, fait des millions de morts de faim. C'est pas... Comment dire ? C'est pas que la mondialisation fonctionne bien et puis il y a un bug quelque part. Non. La mondialisation, par exemple le marché alimentaire mondial, eh bien, le marché alimentaire mondialisé, c'est très simple, il est plus rentable pour les multinationales agroalimentaires de mettre trop de nourriture dans les pays riches et de ne pas en mettre dans les pays pauvres, où la demande n'est pas solvable. Résultat, vous avez un gaspillage monstrueux dans les pays riches où on est bien nourri, et pendant ce temps-là, vous avez des gens qui meurent de faim, littéralement qui meurent de faim, c'est pas une expression, dans les pays pauvres. J'ajoute, ça n'est pas non plus un bug que quand vous êtes un pays pauvre, vous soyez condamné pour que votre économie se développe un peu, vous êtes condamné à satisfaire les demandes, les exigences du marché mondial, c'est-à-dire des pays riches, puisque c'est eux qui ont le pouvoir d'achat. Et donc, vous vous retrouvez dans cette situation immonde où l'Éthiopie, c'est un exemple que je traite dans le bouquin, exporte dans des pays riches, par exemple en France, c'est le cas en France, littéralement, les roses d'Éthiopie et le café d'Éthiopie. Et donc on est très content du café d'Éthiopie et des roses d'Éthiopie qui sont réputées. Et pendant ce temps-là, pendant qu'on exporte en utilisant des terres cultivables du café et des roses, pendant ce temps-là, vous avez... Mais les chiffres sont même incroyables tellement ils sont élevés en termes de sous-alimentation de la population éthiopienne. Et donc... le problème de la faim, le problème de la sous-alimentation n'est pas un dysfonctionnement d'une mondialisation qui par ailleurs fonctionnerait bien, vous voyez ? Et donc moi c'est ça, parmi d'autres points, c'est ça ma réponse fondamentalement à ceux qui disent que finalement la mondialisation ce serait pas si mal, que ça a eu des conséquences positives. Je ne conteste pas les conséquences positives, je dis qu'elles coûtent trop cher en coût humain global. D'où d'ailleurs livre noir de la mondialisation, soit dit en passant. Le livre noir du communisme, il n'y a pas une ligne sur les aspects positifs du communisme. Mais c'est totalement normal, puisque ce n'est pas leur propos. Ouais. C'est un livre noir. Ben moi, c'est pareil. Le livre noir de la mondialisation s'attelle à évaluer le coût humain total de la mondialisation. Et c'est 400 millions. Voilà.
Par rapport au communisme, dichotomie communisme-capitalisme, il y a une question qui m'a un peu tiraillé tout le long du livre. Mmh. C'est, et encore plus sur la partie des morts dues aux conditions de travail, mmh. C'est que l'exploitation des travailleurs, voilà, pour utiliser un langage un peu marxiste, c'est pas lié à la mondialisation, c'est le capitalisme. Donc l'exploitation des travailleurs, elle peut se faire dans un système non mondialisé.
La mondialisation est un synonyme du capitalisme globalisé, c'est-à-dire devenu planétaire. C'est la même chose. On peut s'amuser à essayer de donner un autre sens à mondialisation, mais dans ce cas-là, on parlera de quelque chose qui n'existe pas. La mondialisation n'est pas un système tombé du ciel, et la mondialisation, c'est un système économique, commercial et géopolitique planétaire. Ça n'est pas autre chose. Donc même quand on parle de la mondialisation culturelle, en réalité, de quoi on parle ? On parle du marché mondialisé, de la culture. C'est de ça dont on parle. Marché, d'ailleurs, dominé par les Américains. Enfin, par les États-Unis, pardon. Par les États-Unis en tant que puissance. Voilà. Et d'ailleurs, il y a un pays qui s'en sort très bien en termes de protection, de préservation de son industrie de la culture. Pardon de parler comme ça, mais c'est une industrie. C'est la France. Et comment est fait ? Ben, avec le protectionnisme.
Oui, mais c'est vrai. Bon alors justement, c'est pas du tout comme vous avez dit, c'est un livre scientifique qui fait un bilan concret, mais vous avez quand même une petite partie avec des propositions.
L'épilogue. L'épilogue, en fait, c'est une discussion que j'ai eu avec mon éditeur, avec le directeur éditorial de Plon, qui s'appelle Thierry Billard. C'est notre deuxième bouquin ensemble. Et on a discuté. Si vous voulez, entre un auteur, si ça se passe bien entre un auteur et un éditeur, c'est un peu les mêmes relations qu'entre le réalisateur d'un film et son producteur.
Ouais.
Et donc j'ai discuté avec mon producteur. Bon, et on a discuté, on s'est dit, est-ce qu'on peut vraiment terminer le bouquin sur le bilan et ne pas proposer de chemin pour améliorer les choses. Et on s'est dit qu'on devait quand même, au lecteur, de proposer une alternative. D'expliquer s'il y a lieu, d'expliquer qu'il y a une alternative. D'où l'épilogue, ou effectivement, qui d'ailleurs s'appelle « Il y a une alternative », c'est le titre. Car il y en a une. C'est le protectionnisme, d'une part, et c'est la création d'une coalition internationale, nécessairement sans les États-Unis, puisque les États-Unis sont l'incubateur et le porteur du problème. Donc une coalition internationale, nécessairement sans les États-Unis. Cette coalition met en place sur ses marchés, à elle, une taxe Tobin, c'est-à-dire une taxe sur les transactions financières, même si en toute rigueur, on devrait appeler ça une taxe Keynes, parce que c'est Keynes qui décrit ça pour la première fois dans la théorie générale, et non pas Tobin, nom d'un chien. Et donc, non mais c'est vrai, c'est agaçant. Il faut lire les livres, les auteurs qu'on cite, merde. Donc, non mais c'est vrai. Et c'est René Raymond qui avait dit ça dans son discours inaugural aux étudiants de première année à Sciences Po. Donc c'était mon premier contact avec Sciences Po en tant qu'étudiant. Et la première chose qu'il nous a dite pendant son sermon, en quelque sorte, c'était « Lisez les livres que vous citez ». Je sais que c'est tentant de ne pas le faire dans cette maison, mais lisez les livres que vous citez. J'ai jamais oublié ça. Et je ne m'y suis pas mis tout de suite, mais j'ai fini par le faire. Et donc, la taxe Tobin servirait à financer un fonds international de développement humain, FDH, qui ferait donc le contraire de ce que fait le FMI, et qui serait donc au service des pays pauvres, et non pas un mécanisme, un engrenage de mise des pays pauvres au service des pays riches. Vous voyez ?
Est-ce que c'est crédible ? Parce que la taxe Tobin, ça fait 50 ans qu'on en parle, voilà, Tobin avait repris l'idée de Keynes, ça fait vraiment 50 ans que c'est dans le débat public, c'est un programme de Lionel Jospin, donc... voilà,
ce n'est pas faire insulte à Lionel Jospin que de rappeler que ça a été porté par d'autres,
oui,
en
mais
fait,
c'était pour dire
beaucoup plus fort.
Oui, mais bien sûr que oui, mais c'était aussi dans le programme de Lionel Jospin, pour dire que ça fait 20 ans que c'est dans le débat public très concret français, porté par un parti, qui était le deuxième ou premier parti de France à l'époque. Qu'est-ce qui vous fait penser que ça peut être réalisable concrètement sous peu, dans les années à venir?
J'ai beaucoup travaillé sur la question des combats politiques. Qu'est-ce qui fait que ça marche? Qu'est-ce qui fait que ça marche pas? Les conditions, etc. J'ai fait même un livre entier là-dessus dans le cadre de la France qui s'appelle Antisocial, qui est sur un livre d'analyse des luttes sociales en France au XXe et au début du XXIe siècle. Et donc, si vous voulez, ce qui me fait penser que ces préconisations que je fais sont tout à fait opérationnelles, c'est-à-dire qu'on peut s'y mettre assez vite, c'est que c'est plusieurs choses. D'abord, l'idée fait son chemin. Objectivement, elle fait son chemin. C'est-à-dire que dans les années 90, vous êtes nécessairement trop jeune pour vous en souvenir, mais à la fin des années 90, la taxe Tobin, c'était une idée qui était une idée avant-gardiste, portée par le monde diplomatique et une association créée par des gens du monde diplomatique qui était ATTAC. Et basta. C'est tout. Maintenant, alors, sauf que quand vous revenez pointer l'état des lieux 10 ans plus tard, on est après le krach de 2007-2009, et qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que la taxe Tobin, on en parle au G8. Ouais. Par exemple. Alors qu'avant, c'était une bilvesée, 10 ans avant, c'est considéré comme une bilvesée d'extrémistes. Maintenant, c'est un sujet discuté sérieusement. La taxe sur les transactions financières, c'est quelque chose qui est partiellement appliqué par l'Union européenne. Vous voyez? Je ne dis pas que c'est parfait, je ne dis pas que c'est satisfaisant, ce n'est pas la question. Je dis juste que c'est rentré dans la fenêtre d'Overton. Vous voyez? Bon, que maintenant tout le monde connaît grâce à un autre ami, qui est Clément Viktorovitch. C'est un confrère et c'est un ami. Et donc, ma première raison, c'est ça. C'est que vous voyez bien que cette idée fait son chemin. Ensuite, il y a aussi que les États-Unis ne sont plus, n'exercent plus une domination économique et aussi écrasante qu'il y a 20 ans. Et donc, il y a matière à une coalition portant une alternative. Je ne dis pas que c'est facile, je dis simplement que c'est faisable. C'est ma deuxième raison. Les États-Unis ne sont plus assez forts pour écraser tout le monde. Voilà. Quand j'étais adolescent dans les années 90, il y avait les États-Unis, une espèce de mastodonte imbattable à tous les niveaux, et puis il y avait le reste. Et le reste, c'était des figurants, quoi. On parlait de l'hyperpuissance, on parlait même de fin de l'histoire à l'époque. Voilà, c'était une ambiance particulière. Bon. Et donc, une autre raison, troisième grande raison, j'allais dire, c'est que je pense que une fois qu'une... Comment dire comment vous dire ça les grands changements, ça commence par le fait d'oser proposer un autre chemin. C'est fondamental. Et donc, même si je pensais que c'est pas faisable, je le proposerais quand même. Je pense que c'est faisable. Hein. Bon, d'accord. Je pense que c'est faisable. Si je pensais que c'est pas faisable, je le proposerais quand même. Parce que la première étape de faisabilité, c'est de dire qu'il faut le faire. C'est fondamental. Un gros problème chez les gens qui veulent un autre système, plus ou moins radicalement. Hein. Moi, je suis un réformiste ferme. Je fais pas partie des gens qui veulent une rupture avec une rupture de système par la violence. Il y en a. Hein. Oui, il y a des gens qui sont révolutionnaires. Ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas mon cas parce que je pense que le coût humain est trop élevé.
Ouais.
C'est tout. Et qu'on ne joue pas avec le sang des autres. Quoi. Enfin, pas moi. Mais donc, la première étape, je le répète, la première étape, c'est de formuler le chemin. Et d'ailleurs, depuis que je suis actif en tant qu'intellectuel de gauche, je vais dire, je me suis rendu compte que nous sommes en réalité très très peu nombreux dans notre branche, si vous me passez l'expression, nous sommes très peu nombreux à proposer des chemins. On est très peu nombreux. Une fois que vous avez enlevé ceux qui pleurnichent et ceux qui font que du diagnostic et ceux qui disent que l'ennemi est méchant, pardon, que l'adversaire est méchant.
Merci d'avoir écouté cette première partie de notre entretien avec Thomas Guénoulet, et désolé de cette rupture assez nette dans l'enregistrement qui est due à un problème indépendant de notre volonté. La seconde partie de cet entretien sortira bientôt dans un second podcast.